C'est bon encore de se retrouver ensemble, Seigneur. C'est là que tu dis qu'au milieu de l'assemblée des frères et sœurs que tu fais couler ton huile, Seigneur, puis ta bénédiction qui demeure pour l'éternité. Ô Seigneur, continue à déverser ce soir au milieu de nous. Communique-nous tout ce qui vient de toi, Seigneur. On veut tout ce que tu as à nous donner. Que ce soit tes dons, ton onction, que ce soit la maîtrise de nous-mêmes, la joie, la paix, l'amour, la douceur, la patience, ta sagesse. Ô Seigneur, continue à nous communiquer. Continue à nous transformer, puis qu'elles deviennent comme les choses qui dominent dans notre vie, afin qu'on transparaisse, qu'on devienne l'image de Jésus sur cette terre. Oui, merci de ce que tu fais encore ce soir au milieu de nous. Merci de ta présence, c'est apprécié, Seigneur. On est reconnaissant. Alléluia. À toi la gloire en toutes choses. Parle à nos cœurs, Seigneur, par ta parole ce soir. Continue à nous édifier, à nous fortifier. Continue à nous graver ces choses afin qu'on s'en rappelle, qu'on puisse les méditer. Oui, grave tes pensées, Seigneur, ta pensée. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va continuer ce qu'on était rendu. Nous allons entreprendre la section numéro 10. La semaine passée, on a vu que tous pouvaient parler de... On pouvait témoigner de notre expérience avec le Seigneur, que ce soit des expériences qu'on a vécues, qu'un autre a vécues, qu'il fallait comme... Les écrire, les garder dans notre mémoire, s'en rappeler. Si on pense à tous les évangiles, on voit dans des passages que Marie a été témoin de certains événements quand que les gens sont venus pour rencontrer Jésus quand il était bébé. Puis ça nous dit Marie se rappelait continuellement ces choses-là. Marie a médité continuellement tout ce qui était arrivé, tout ce que les gens avaient dit. Elle repassait ça dans son cœur, puis elle gardait ça, ce qu'elle avait vu et entendu comme témoignage que les gens amenaient face à son enfant. Puis tout ça, ça a permis qu'on puisse écrire les évangiles. Parce que tout l'évangile, c'est écrit en suivant les récits rapportés par ceux qui ont été les témoins oculaires et ceux qui ont entendu les choses, ont rapporté ce qui avait été dit. C'est pour ça qu'il est important de toujours se rappeler y repenser, méditer à ce qu'on vit avec le Seigneur. Parce que si on voudrait écrire un livre, bien, il faudrait se rappeler de tout ce qu'on a vécu. Mais là, notre but, c'est pas d'écrire un livre, mais c'est de le raconter à quelqu'un pour dire que le Seigneur fait encore des choses aujourd'hui. Alléluia. Si je vous demande ce soir, comment est-ce qu'ils vont vos parents? Bien, que ce soit vos enfants, comment est-ce qu'ils vont vos enfants, comment est-ce qu'ils vont vos voisins, comment est-ce qu'ils vont... La première idée quand on entend quelque chose comme ça, comme question, comment ça va, on pense tout de suite au côté physique. En réalité, il n'y a pas juste le côté physique qui comporte la personne. Il y a le côté spirituel aussi, le côté spirituel qui est pas moins important, mais je dirais même qui est plus important, parce que les conséquences d'un état, d'un corps qui a des problèmes... C'est encore passager, tandis que si on pense aux conséquences de l'état spirituel d'une personne, c'est permanent, puis c'est pour l'éternité. Puis on devrait se soucier comment est-ce que les personnes se comportent spirituellement. Et pour cela, on a besoin de comprendre comment est-ce que Dieu voit ces personnes. Parce que si on les regarde à nos yeux, on va se dire, « Ah, c'est toutes des personnes créées par Dieu, c'est toutes des créatures de Dieu. » Oh, en fin de compte, on descend tous d'Adam et Ève, on est tous frères et sœurs les uns des autres, on est tous les fils de Dieu, puis on fait toute partie de la même famille. Puis là, on continue dans ce raisonnement-là, tout est beau, on n'est qu'un seul Dieu, puis tout ensemble, on sert le même Dieu. On peut en entendre des raisonnements comme ça, puis on va en entendre encore. La seule affaire, c'est que ça, c'est pas la vérité. Puis pour bâtir notre raisonnement face comment est-ce qu'elle est la situation ou la condition de la personne qui est devant moi, spirituellement parlant, je dois me référer à ce que la parole de Dieu me dit sur l'état réel des gens qui nous entourent. Si on veut vraiment poser un diagnostic qui est vrai, ou bien vraiment avoir le même cœur ou la même pensée ou la même vision des choses que Dieu a quand il regarde la situation, bien, il faut que je connaisse sa pensée et sa manière de voir. Puis on va voir ce soir... On a beaucoup de matériel, c'est pour ça qu'on essaie de partir un petit peu de bonheur. Une prise de conscience de l'état des gens. Quand on parle qu'on veut se motiver pour l'évangélisation, on veut atteindre le plan de Dieu qui est la grande commission. Dieu a un appel sur nos vies, mais dans le fond, il faut comprendre pourquoi qu'on est envoyé vers ces gens-là. C'est-tu si important que ça? On est rendu à partie numéro 10 de notre étude, qui est la grande commission. Ça nous parle. Sommes-nous conscients de l'état de perdition des gens? Et même en partant, on peut se demander, y est-il important de la comprendre, leur état? Parce que c'est sûr qu'on peut jouer comme à l'autruche, puis s'enfoncer la tête dans le sol, puis essayer d'ignorer qu'est-ce qui se passe autour. Mais on peut pas ignorer qu'est-ce qui se passe autour. Parce que la minute qu'on sort la tête pour prendre une bouffée d'air, on est bien conscient quand même de qu'est-ce qui se passe. Puis plus qu'on lit la parole de Dieu, plus qu'on se rend compte comment c'est grave. C'est grave qu'est-ce qui se passe quand on pense que les gens sont sans Dieu ou séparés de Christ, séparés de son œuvre, séparés de tout ce que Dieu veut leur communiquer. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a personne qui est digne de quoi que ce soit devant Dieu. Tu sais, des fois, on entend de toutes les couleurs les gens, « Ah, mais moi, le Dieu, là, il va m'ouvrir le tapis rouge devant moi. » Par rapport à ce que cette personne-là a fait des bonnes œuvres, elle a servi dans des organisations, puis je l'ai entendu de mes oreilles, celle-là. Puis la personne, elle pense que Dieu va ouvrir le tapis rouge devant elle. Puis il y a des gens, vraiment, qui pensent comme ça. Mais si on continue à prêcher la parole de Dieu, dans Romains 3, 9 à 18, ça nous dit, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents, en parlant des chrétiens, en tant que chrétiens, ou en tant que juifs, ou en tant que n'importe qui? Y a-t-il quelqu'un de plus excellent? » Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, puis ils ne se servent de leur langue que pour tromper. Puis ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. C'est du venin de serpent qu'ils ont dans leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction puis d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Là, on parle d'un passage, mais il y en a plein comme ça qu'on va voir ce soir. Puis ça va nous montrer l'état réel. Pas juste des gens, mais ça nous montre aussi notre état réel qu'on était avant qu'on accepte Jésus. On peut pas concevoir de l'orgueil en se pensant meilleur, parce qu'on est exactement comme tous les autres. Il dit, sommes-nous plus excellents? Il dit, nullement, parce qu'on a déjà prouvé que tous, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, ou même les gens dans ce monde présentement, qui se pensent corrects et qui se pensent bons, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La société a perdu le sens réel de la vie de Dieu. Éphésiens, au chapitre 4, versets 17 à 19, ça nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Le verset 18 que je pèse dans ce point-là, c'est « Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Des fois, il y en a qui pensent qu'ils connaissent Dieu, il y en a qui pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu, connaissent quoi, tout ce qui pourrait être comme, moi je sais comment faire pour être sauvé, je fais des bonnes œuvres ou ma religion me dit ça. Ils sont étrangers de la vie de Dieu, ils ne la connaissent pas à cause de leur endurcissement. Puis si on se dit, ouais, mais comment ça se fait que ces gens-là sont comme ça? Nous autres aussi, on était comme ça. Là, ce soir, on est en train de regarder comment est-ce que Dieu voit les choses. C'est sûr, à mes yeux, si je dis, comment est-ce qu'il va? Quand quelqu'un me demande, comment est-ce qu'il va ton père? Ben, je vais dire, il va bien. Mais il va pas bien. Ça va mal. Parce qu'aux yeux de Dieu, il est perdu. Il connaît pas le Seigneur. Il est étranger de la vie de Dieu. Pas rien que lui. Tout le monde qui nous entoure sont comme ça. Ils connaissent pas c'est quoi la pensée de Dieu. Ils connaissent pas c'est quoi qui est le plan pour être sauvé. On doit avoir la pensée que tout le monde devait être en train de vivre par Dieu et pour Dieu. C'est pas juste pour les chrétiens. C'est pas juste pour ceux qui sont sauvés qui doivent marcher selon le plan de Dieu. C'est pour tout le monde. Dans notre pensée, quand on regarde le monde, il ne faut pas faire comme une séparation, dire, mais nous autres, c'est normal de vivre comme selon le plan de Dieu, puis eux autres, c'est pas grave s'ils ne vivent pas. Non. Il faudrait toujours avoir dans notre pensée qu'eux autres aussi devraient être en train de vivre à servir Dieu, puis à marcher dans la sainteté, puis à rechercher à faire le plan de Dieu dans leur vie, à vivre selon le plan de Dieu pour leur vie. Il faut pas mettre une séparation entre le monde chrétien puis les attentes de Dieu pour le monde chrétien, puis les attentes de Dieu pour le monde qui nous entoure. Dieu veut voir ces gens-là en train d'obéir à sa parole, puis de marcher dans ses voies. Et même plus loin, on va voir que les gens qui vivent pas comme ça, c'est parce qu'ils sont rebelles. Dieu a des attentes pour ces gens-là autant qu'il y en a pour nous autres. Fait que quand je regarde ce monde-là, il faut que je me dise, « Hey, il serait supposé d'être en train de vivre comme moi je veux vivre. Je veux servir le Seigneur, mais eux autres aussi seraient supposés d'être comme ça. » Puis s'ils sont pas de main, c'est parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils devraient faire, puis ils ont les yeux, ils sont rendus aveugles, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont comme dans les ténèbres, puis ils ne voient pas où ce qui s'en va. Parce que la Bible nous dit, s'ils ne voient pas briller l'Évangile, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Parce que quand tes yeux ouverts, quand Dieu met l'étincelle de lumière dans tes yeux pour que tu voies c'est quoi qui est l'Évangile, puis le plan de Dieu dans tout cela, de sauver l'humanité à travers son sang qui a été versé sur la croix, puis qu'il s'était préparé depuis le début, cela, quand il parlait des sacrifices que les gens devaient apporter à Dieu, un agneau pour payer pour leurs péchés. Il s'était préparé, Jésus est venu, il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, puis quand on regarde l'histoire, hey, c'est évident, cette histoire-là, que c'est ça, mais la Bible elle nous dit, si quelqu'un ne voit pas briller ça, c'est parce qu'il est aveuglé par quelque chose qui le rend aveugle. Ça nous dit que c'est le Dieu de ce siècle qui est en train de l'aveugler. Le diable est en train de les aveugler. C'est lui qui est comme le prince de la puissance de l'air présentement. La Bible a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il aveugle les gens pour les empêcher de voir c'est quoi l'Évangile. Il va-tu lui en mettre des choses dans la tête? C'est pas grave qu'est-ce que lui va leur mettre dans la tête. C'est plutôt qu'est-ce que nous autres on va leur mettre dans la tête qui compte. Parce que depuis leur jeunesse, ils sont entraînés à pas voir. Puis nous autres, on est la lumière du monde, puis on est porteurs de cette vérité-là, puis c'est nous autres qui doivent briller pour leur lancer des étincelles, pour qu'ils comprennent, puis que leurs yeux s'ouvrent, puis qu'ils viennent à cette lumière qui est Jésus. 2 Corinthiens, ça nous dit, pour les incrédules, c'est au chapitre 4, le verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. J'ai écrit quelque chose sur ma feuille, puis je suis incapable de le lire. Non, après, une note personnelle. Ça va mal. OK. Savez-vous, tu sais, souvent on dit, ouais, mais là, c'est parce qu'ils sont attirés par leur convoitise, ils sont attirés par qu'est-ce qu'ils vivent, toute la richesse. S'ils ne voient pas, c'est parce qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. Souvent, on pense ça. Mais dans ce verset-là, c'est pas ça que ça me dit. Ça me dit, il parle pas que c'est le monde qui est en train de les rendre aveugles. Ça nous dit que c'est le diable qui est en train de les rendre aveugles. Puis là, il y a comme une vérité qu'il faut comprendre là-dedans que, tu sais, quand il nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre les personnes. On a à lutter contre les esprits méchants d'un lieu céleste qui sont en train d'agir, ces personnes-là. La cause première que les gens ne voient pas briller l'Évangile, c'est parce qu'il y a un voile sur leurs yeux. C'est qui le met, ce voile-là? C'est le diable. C'est ça qui empêche que ces gens-là voient. Quand on va commencer à rentrer dans cette compréhension-là, on va dire, wow, là, qu'est-ce que je peux faire pour intervenir, pour ouvrir les yeux de ces gens-là? Mais à quelque part, le Seigneur nous a donné de pouvoir prier pour ces gens-là et de prendre autorité, de chasser, de briser des choses, puis que là, les gens vont recevoir leur délivrance, puis ils vont venir, puis ils vont comprendre. Le problème numéro un de la société, pourquoi qu'ils vivent étrangers de la vie de Dieu, c'est à cause qu'ils sont menés par un autre esprit qui les tient captifs et les empêche de le faire comprendre. Il va se passer de quoi devant leurs yeux, un miracle qui vient de Dieu? Ils vont le voir, ils vont dire, ouais, ils vont se redétourner parce qu'ils comprennent pas, ils voient pas. Puis il y a quelque chose qui lui dit, voyons, c'est pas si important que ça. Puis là, il est attiré plus loin. Puis ils vont l'oublier, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça s'est passé dans le temps de Jésus aussi. Par contre, il y en a d'autres qui ont vu les choses, puis les yeux se sont ouverts parce que Dieu a intervenu. Sûrement qu'il y a eu des prières, puis ces gens-là, puis là, ils ont compris, puis là, ils ont donné leur vie au Seigneur. Bien, nous autres, à quelque part, on est comme entre les deux. Il y a le royaume de Dieu, puis on est comme des ambassadeurs, on est envoyés vers ces gens-là. Ces gens-là, ils sont capturés par un esprit qui n'a pas d'affaire à être là. Que nous autres, on arrive, puis on leur apporte ce qu'il en est de la vérité, puis on peut prier pour ces personnes-là pour les délivrer de ce qui les empêche de voir, puis ils vont pouvoir venir à l'Évangile. La Bible nous le dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Là, si je m'arrête, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire... tous ceux que je connais qui ne sont pas sauvés autour de moi, que ce soit de ma famille, que ce soit de mes voisins, mes amis, mes compagnons de travail, ceux qui ne sont pas à l'Évangile, ils sont sous une autre puissance qui les domine, qui les tient aveugles. Ça, c'est dans 1 Jean 5, 19. Ça nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Là, si je vous demande, comment est-ce qu'ils vont vos parents? Là, vous allez commencer à dire, wow, ça va pas si bien que ça. Si on continue, ils sont tous rebelles en obéissant à l'esprit de ce monde, étant fils de la rébellion. Ça a commencé à partir de la naissance. Éphésiens 2, le verset 1 à 3, ça nous dit, Ça nous inclut aussi qu'on est né dans ce contexte-là. Il ne faut pas se penser meilleur. Puis quand on voit ces révélations-là sur le monde, c'est pas pour qu'on parle d'ici que nous autres, on est bons, puis nous autres, on a l'affaire, puis nous autres, on est supérieurs. Nullement. C'est juste pour nous montrer comment est-ce que Dieu voit la situation, comment est-ce qu'on doit s'humilier devant le Seigneur, puis commencer à prier pour ces gens-là, puis de chercher que ces gens-là soient sauvés, qu'ils soient délivrés de leurs conditions. Ça nous dit dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, c'est sûr que le monde aussi y agit. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, puis nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça nous dit que ces gens-là sont menés par un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est quoi ça, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion? Ça vient de où, cette pensée-là? Quand a commencé la rébellion? A commencé avec Adam et Ève. Parce qu'au début, Dieu avait créé les humains pour qu'ils marchent dans l'obéissance. Quand Adam et Ève ont commencé à tomber dans le péché, avec le premier péché, parce que l'ennemi, le diable, est venu pour y mettre ça beau le péché, puis là, Adam et Ève l'ont embarqué dedans, là, il les a capturés. Après ça, il y a eu des enfants qui ont été enfantés par la suite. Puis la population de la terre est arrivée comme ça. Puis le monde entier, on est comme tous des fils de la rébellion. Puis il y a un esprit qui agit pour maintenir cette rébellion-là, puis continuer cette rébellion-là pour pousser les gens à continuer à désobéir en face à Dieu. Puis cet esprit de désobéissance-là, bien, ça me dit, c'est le Dieu de ce siècle qui les a aveuglés, c'est le Dieu de ce monde qui est en train de les mener, puis ça nous dit que c'est l'Esprit qui agit le prince de la puissance de l'air. Présentement, ce qui se passe présentement, là, c'est que l'ennemi, il règne sur l'air présente et sur toute la race humaine. Quand on parle du royaume des ténèbres, c'est ça. La terre en entier est couverte du royaume des ténèbres et de toutes les gens, sans rendre compte, ils naissent dans ce royaume-là. Ils sont tous capturés par l'esprit qui mène la rébellion depuis le début. Puis nous autres aussi, on était comme eux autres. C'est ça que ça nous dit en ce passage-là. Le siècle présent, il enseigne aux gens d'être indépendants face à Dieu. Chacun s'organise lui seul. C'est vrai. Tout le monde aujourd'hui, ça va bien dans leur vie. Ils roulent gros carrosses, ils ont des maisons, ils ont des véhicules, ils ont les biens. Ça roule. Puis l'esprit de ce monde leur enseigne, faut que ça roule. L'argent, faut que ça rentre, ça sorte, puis il faut que tu travailles 3-4 jobs, tu fasses de l'argent, tu roules l'économie. Puis là, pendant que tu vis dans cette roue-là, que l'ennemi t'entraîne, tu penses pas à ta condition réelle devant Dieu. Tu penses pas à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe après quand tu vas mourir. Tu n'as même pas le temps d'y penser. Tu te lèves le matin en courant parce que là, il te reste 5 minutes pour déjeuner, préparer, puis partir pour aller travailler. Puis tu finis de travailler le soir, tu arrives, puis tu te couches, puis tu dors, puis tu repars le lendemain, puis c'est tout, la routine. Puis ça passe les semaines, les mois, les années. Première nouvelle que tu sais, t'es rendu mort. Première nouvelle que tu sais, t'es rendu l'autre bord. Puis c'est l'ennemi qui tient ça aveuglé, cette situation-là. 2 Timothée 3. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Quand on parle que les gens ne soucient pas de marcher avec Dieu, ils veulent apprendre à marcher sans Dieu, qui n'ont pas besoin de Dieu, mais ils viennent à un niveau par leur vie, ils sont égarés. Là. Ils ne savent même pas qu'ils marchent dans une rébellion, ils ne savent pas qu'ils sont dans un chemin qui n'est pas le seul qui était le plan initial pour sa vie. Puis, il est égaré, puis il est en train d'égarer les autres parce qu'il va rencontrer quelqu'un, puis il va dire, hey, t'as pas vu ça, comment est-ce que je me suis fait avec mes 3 jobs? Je suis rendu avec 1500 clairs par semaine, puis plus que t'en fais de l'argent, plus tu peux t'acheter, puis moi, je prévois d'aller en vacances à telle place, puis je vais faire... Tu sais, ça paraît être une belle vie, mais... Il est égaré, puis il est en train d'égarer les autres, parce que sa condition d'être, sa manière de vivre, elle respire pas la crainte de Dieu, puis la recherche de vivre, à chercher la présence de Dieu, puis chercher à connaître le plan de Dieu, puis chercher à obéir aux principes de Dieu. Il est ignorant de la vie de Dieu, puis lui, sa vie, mais c'est pas grave, on roule bon carrosse, puis moi, mon but, c'est de me ramasser 1 million à la banque, puis tu sais, puis il est égaré lui-même, puis il égare les autres. Et qu'est-ce que ça va faire? Au bout de la ligne, c'est que la Bible nous dit un aveugle conduit un autre aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber tous les deux dans la fosse. Il ne faut pas penser que le fait que nous soyons chrétiens, que nos enfants sont automatiquement chrétiens. Le salut il est non par la volonté de la chair, ni de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu que nos enfants vont être chrétiens. Tu sais, des fois, maintenant, on veut s'arrêter sur la condition réelle des gens qui nous entourent. Bien, si on se pose la question, qu'est-ce qu'il y en a de mes enfants? C'est pas à cause que je suis chrétien que mes enfants sont automatiquement chrétiens. Eux autres aussi en prennent une décision. Eux autres aussi en s'engager. Eux autres aussi en obéir. Sinon, ils sont menés par l'esprit de ce monde. Ça nous le dit dans Jean 1. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à quelque part, il faut que tu le reçoives, le salut. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu à cause de ton sang. Ce n'est pas à cause que ton grand-père est chrétien, puis ton père est chrétien, puis que toi, tu es chrétien. Ça ne veut pas dire que ton enfant va être chrétien. Ce n'est pas dans le sang, ça. Ce n'est pas dans la volonté du sang. Ce n'est pas des gènes que tu transmets d'être chrétien. Il peut être rebelle, puis il peut marcher dans un plan qui est contrairement au plan de Dieu. Savez-vous que devant Dieu, il n'y a pas d'excuse pour l'ignorance et la désobéissance? Savez-vous, même pour la loi humaine, tu te fais arrêter en train de faire une infraction? Là, tu dis, je ne le savais pas. Mais lui, le policier va dire, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. C'est une loi, ce que je viens de vous dire là. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. C'est une loi qui est dans les lois humaines. Mais devant Dieu, c'est la même chose. Si quelqu'un dit, ouais, mais moi, j'étais habitué avec mon... Tout le monde dans notre famille, on était des hommes d'affaires, puis on fait notre vie, puis j'étais habitué de même. Je savais pas, moi, qu'il fallait que je serve Dieu. L'ignorance, c'est pas une excuse devant Dieu. 2 Thessaloniciens 1, et versets 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ça va être pour le retour de Jésus. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand Jésus va revenir, il va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas puis ceux qui n'obéissent pas. Fait que le fait de dire « Oh, je ne le savais pas », mais c'est pour punir ceux qui ne le savaient pas, qui ne connaissent pas. Et ceux qui le savaient et qui n'ont pas obéi vont se faire punir aussi. Ces gens-là, ils sont dans un état grave. Parce que même s'ils ne savent pas, ils sont autant coupables devant Dieu que s'ils auraient été éclairés de sa connaissance. Comme qu'on a vu tout à l'heure, qu'il n'y avait aucun dans la gang qui était des bons gars. Romains 3, 23 nous rajoute « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu quand tu marches séparé d'avec Dieu. Tu ne peux pas goûter à sa gloire non plus. Mais là, depuis tout à l'heure qu'on dit que tout le monde sont dans le péché, tout le monde marche tout croche, comme qu'on était nous autres mêmes. Est-ce qu'ils vivent la puissance de Dieu dans leur vie? Est-ce qu'ils vivent la touche de Dieu, l'onction de Dieu, les exaucements de prière, comme ceux qui s'approchent de Dieu vivent? C'est une grâce qu'on a, c'est un cadeau qu'on méritait même pas. On était pareil comme eux autres. Le Seigneur nous a ouvert les yeux, on a compris, on a accepté, puis on reçoit, puis on vit sa gloire. Puis pas rien que la présente, parce que Dieu manifeste sa gloire présentement, mais ça va être encore bien plus grand quand on va arriver l'autre bord. Quand on va rentrer dans sa gloire réelle, bien, ces gens-là vont être privés de sa gloire. La Bible nous parle dans l'Apocalypse que les gens vont voir Dieu. Il n'y aura plus ni ciel ni terre. Ils vont être debout dans le vide parce que toutes les morts vont ressusciter. Puis ils vont se présenter devant Dieu et les livres vont être ouverts. Puis le livre de vie. Et chacun va être jugé selon ses œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre-là. Ils vont voir Dieu de leurs yeux. Puis ils vont être jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est grave, ça, là. Ces gens-là ne pourront pas dire, « Oh, mais je ne le savais pas. » C'est pas une excuse. « Oh, mais je l'ai entendu, il y avait quelqu'un qui m'en parlait à tous les semaines à la shop. » Ben tu l'as su, mais là, tu n'obéissais pas. Tu es encore perdu pareil. La colère de Dieu demeure sur les incroyants. La semaine passée, j'ai dit, Dieu les aime, Dieu leur tend les mains, Dieu veut que ces gens, Dieu est patient, Dieu veut que ces gens-là changent, puis il travaille par son esprit pour les changer. Mais d'un autre côté, Dieu aussi est en colère de voir comment ces gens-là sont endurcis, comment ces gens-là sont incrédules, comment ces gens-là ils sont désintéressés de lui. Dieu, c'est le Créateur, ça serait la moindre des choses que tout le monde plie genoux devant lui. C'est la moindre des choses, c'est le Créateur, on est créature. Mais on décide, non, j'ai pas le temps de m'occuper de Dieu, moi je veux m'occuper de ma vie. Je suis mon propre Dieu, je suis mon propre chemin. Aïe aïe. Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Ça, c'est la vie future. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Plusieurs personnes ils ont une soif de spiritualité. C'est vrai. Il y a plein de monde qui suivent des religions, qui cherchent à trouver quelque chose, puis ils vont vers l'ésotérisme, ils vont vers l'occultisme, ils vont vers l'astrologie, ils vont les tirages de bonne aventure, les tirages de cartes, ou peu importe. Ils ont une soif de choses spirituelles. Parce que tout le monde, on a un esprit. Tout le monde, notre esprit, elle a comme une soif à vouloir connaître les pourquoi, puis les comment, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis là, ils consultent, ils cherchent, mais ils savent pas où aller. Plusieurs ont une soif de spiritualité, mais sans en connaître le vrai chemin. Romains 10, 1, 3. Frère, le vœu de mon cœur, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, et ma prière à Dieu pour eux, ça c'est en parlant de sa famille, de ceux qui font partie de son peuple. De son cœur, là, puis sa prière, c'était qu'il soit sauvé. Ça, c'était ce qui animait le cœur de Paul, son désir envers ceux qui les entouraient. Il voulait que tout le monde soit sauvé. Mais il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils se sont pas soumis à la justice de Dieu. Tout ça pour dire que l'apôtre Paul voyait que ces gens-là, ils aimaient Dieu dans le fond, puis ils cherchaient Dieu. Mais il n'y avait pas d'intelligence parce qu'ils ne voulaient pas prendre le plan que Dieu avait établi, ils voulaient établir leur propre plan. C'est encore une forme de rébellion devant Dieu. Même si tu veux t'approcher de Dieu, si tu ne passes pas par le chemin que Dieu a dit qu'il faut que tu prennes pour t'approcher, tu marches encore dans la rébellion. Ce chemin-là, c'est Jésus. Il était prophétisé d'avance, les Juifs l'attendaient, le Messie. Dans l'époque où ce qui était, ils l'attendaient. Mais ils attendaient un Messie qui délivrerait de l'Empire romain, ils n'attendaient pas un Messie qui délivrerait du péché. Quand Jésus était là devant eux autres, lui prouvant par des miracles et des signes de toutes sortes, puis par la prédication, c'était pas ça qu'eux autres voulaient. Ils voulaient s'approcher de Dieu, ils voulaient servir Dieu, mais encore à leur manière, en cherchant à établir leur justice, en pratiquant des œuvres pour essayer de se penser juste, des œuvres de la loi. Savez-vous que le diable ne dit que des mensonges aux gens? Dans Jean 8, 44, il dit, « Vous avez pour père le diable. » C'est Jésus qui dit ça à des personnes. « Puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. » C'est à l'heure quand je disais que les gens sont menés par l'esprit de ce monde. Ils sont aveuglés par l'esprit de ce monde, mais sont menés par l'esprit de ce monde. Mais il dit ici, votre père, c'est le diable, et vous êtes en train de vouloir accomplir les désirs de votre père. Au lieu de vouloir accomplir les désirs de Dieu, le plan de Dieu, c'est de marcher dans les désirs de leur père. Puis leur père, il est meurtrier dès le commencement, puis il se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui-même. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur puis le père du mensonge. Le diable, il est menteur puis il est le père du mensonge. Puis tous ces gens-là qui ont vécu des expériences dans leur religion ou dans leur spiritualité, ils ont vécu des expériences nées par un esprit qui s'est manifesté à eux. Ils ont vu des apparitions, ils ont eu des paroles qui ont été révélées. Mais ça vient pas de la parole de Dieu, c'est pas les paroles qui viennent de la parole de Dieu, donc ça vient des paroles nées par l'esprit qui les mène, qui est le diable, et qui les inspire, et que ces gens-là veulent encore plus obéir puis marcher dans la direction que cet esprit-là leur donne. Si vous me dites, ouais, mais comment est-ce qu'on va faire savoir si vraiment c'est l'esprit du diable qui nous mène, ou si c'est l'esprit de Dieu qui nous mène? Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Il y a une seule manière de le savoir. Ce que vous suivez, ce que vous parlez, ce que vous pensez, ce que vous pratiquez, est-ce que ça vient du Nouveau Testament? Est-ce que ça vient de la parole de Jésus? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Si oui, tu es dans le bon chemin. Sinon, tu es en train de te faire tromper par un esprit, l'esprit qui est dans ce monde, qui mène depuis le début, puis qui va conduire jusqu'à la perdition. Les gens ont besoin de sortir de cette condition-là, de réaliser leur état, puis de que leurs yeux se rouvrent pour qu'ils se dégagent de ces griffes-là qui les retiennent captifs. Les âmes capturées par le diable doivent revenir à leur bon sens pour s'en dégager. 2 Timothée 2, le verset 24. Ça nous introduit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit, ça c'est nous autres, les serviteurs du Seigneur, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On doit arriver avec douceur, rencontrer ces gens-là, puis essayer de leur parler pour les redresser, pour leur montrer le chemin. Puis là, faut garder l'espérance que Dieu va leur faire comprendre. Puis là, ils vont arriver dans le bon sens, puis ils vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils vont décider d'abandonner ce que le diable a pris comme emprise sur eux autres, puis ils vont rejeter ça. Puis là, ils vont choisir de servir Jésus et rentrer dans son royaume. C'est notre tâche, en tant que serviteurs du Seigneur, d'essayer de redresser les adversaires. Ici, quand on parle des adversaires, je ne veux pas dire tout haut que c'est du monde qui va nous sauter dessus, mais adversaire en tant que personne qui ne marche pas sur le même côté de la ligne que nous autres. Mais c'est avec douceur, en ayant dans le cœur un désir à vouloir qu'ils comprennent. Ils sont menés. Pour que ces gens-là décident de changer de vie. Même si on leur dirait « change de vie, change de vie ». Non, tant qu'ils n'ont pas décidé, ça ne changera pas. Il faut qu'à quelque part, ils réalisent leur état et ils décident de changer de vie. Ils doivent prendre la décision de sortir des ténèbres puis de sortir de cette emprise-là. Acte 2, 38, Pierre il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans ce passage-là, ça nous dit, il y a un enfant de Dieu qui est en train de parler à du monde qui n'était pas enfant de Dieu, des gens qui ne connaissaient pas le plan de Dieu, puis il leur dit, repentez-vous. Puis on le sait tous ce que ça veut dire, se repentir. Se repentir, ça sous-entend de regretter amèrement la vie qu'on est en train de vivre et décider de s'en détourner parce qu'on décide d'haïr notre propre vie. On regarde ça, puis ça pue. C'est pas beau devant le Seigneur. On rejette ça, puis on se tourne, puis on marche dans le plan de Dieu. C'est ça qui est la vraie repentance. Puis les gens, il faut qu'ils arrivent à une réelle repentance pour changer de camp. Sans repentance, ils vont rester encore liés, capturés, puis menés par cet esprit-là. Il faut qu'ils comprennent, puis qu'ils le rejettent amèrement, puis ils le refusent, puis qu'ils s'engagent à suivre, puis qu'ils marchent dans le nouveau chemin. Nous devons amener les gens face à un choix. Qu'est-ce qu'ils font de Jésus et de sa parole? C'est ça qui est le choix. Qu'est-ce que tu veux faire de Jésus dans ta vie? C'est sûr que là, on pose pas directement cette question-là en partant. On peut raconter tout ce que Jésus fait dans notre vie. Quand on parlait à la semaine passée de raconter les miracles, les délivrances, les guérisons, les exaucements de prières, les touches de sa présence, quand que le Seigneur nous parle par des prophéties ou par des messages. En tout cas, on a des preuves de la présence de Dieu à tous les semaines, de toutes les façons. On l'encourage, puis on y parle avec douceur, puis il fait comprendre. Mais le but, c'est qu'est-ce que tu fais de Jésus? Faut que tu viennes à Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Faut que la personne, elle arrive à passer par Jésus pour aller au Père. Faut que les amener fassent. Qu'est-ce que tu fais de Jésus dans ta vie? Faut lui dire que Jésus veut y aider. Jésus marche avec. Je me dépêche. J'ai presque fini. Dans Luc 24, 47, ça nous dit que la repentance, le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le principe de ça, c'est Jésus est en train d'annoncer qu'il fallait que ça se passe, que le message de la repentance soit prêché à toutes les nations. Là, il dit à partir de Jérusalem parce qu'il était là en ce temps-là. Mais ça finira jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut que le message de la repentance soit prêché à toutes les nations. Même aux gens de Châteauguay. Même aux gens de Saint-Constant, d'Elsun, Sainte-Catherine. Il faut que le message leur soit dit. Parce qu'on j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le sort final des incroyants, c'est l'étang de feu. Ma grand-mère, elle me disait, quand le monde va être en enfer, il y a comme un pendule qui est là. Toujours, jamais. Toujours, jamais. Toujours rester, jamais sortir. Ça, c'est que la personne qui va être rendue là, il est trop tard. Faut pas que tu rentres là. Faut que tu t'arranges pour rentrer là. Là, on se parle entre nous autres. Faut marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, puis dans la fidélité, jusqu'à la fin. n'ont pas de chance à prendre, mais il faut exciter les autres aussi à ce qu'ils viennent aussi dans notre chemin, qui est le chemin de Jésus, par rapport que s'ils restent dans cette condition-là, que ce soit ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, ton enfant, ou ton père, ou ta mère, ou ton voisin, ou ton meilleur ami, s'il ne vient pas dans le chemin qu'on est en train de suivre, il s'en va directement dans cet endroit-là, c'est pour l'éternité qu'il va se ramasser là. C'est grave. Je pourrais vous lire le passage, mais vous pourrez le lire à soi. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 20, où c'est exactement le passage que j'ai récité tout à l'heure. Face à la révélation de la parole de Dieu sur l'état réel de ceux qui nous entourent, les gens doivent savoir et comprendre ce qui les attend. La plupart ne le savent même pas. Chez d'autres, ils ont une soif, mais ils ne savent pas où aller puiser. C'est tout pour ce soir. Moi personnellement, là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important qu'il va y avoir dans notre pensée. Je sais que, dans le fond, on n'est pas tous des évangélistes, puis j'en suis pas un évangéliste, moi non plus. Je suis qu'un simple disciple, bien ordinaire. Sauf, ces passages-là, ils sont là. Ils sont gravés ici et là. Quand je pense au monde, je suis conscient de ce qui se passe avec eux autres. Je ne vous dis pas que je suis conscient 24 heures sur 24 parce que, oups, la routine de la vie nous fait rouler, puis là, on pense à toutes sortes d'autres affaires, mais il faut se ramener, il faut s'en parler, il faut se le rappeler. C'est grave. On est seuls qui le savent. La semaine prochaine, on va avoir quelque chose de hot. Ah, c'est vrai, j'aurais pu continuer, mais... Le résultat, non, on gardera ça la semaine prochaine. Urgent, sauvons les gens, le temps y est court. Ça va être le thème de la semaine prochaine. Face à quand on le sait, comme